Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode où on va discuter du nouveau documentaire Netflix sur le microbiote qui s'appelle « À l'écoute du ventre, les secrets de votre santé ». Et pour discuter de cet épisode, on a le docteur Ballon Perrin.
Bonjour.
Qui est un grand expert spécialiste du microbiote, médecin spécialisé en médecine fonctionnelle, à la tête du Centre de recherche d'application clinique du microbiote, et également directeur du comité scientifique de CIMP, et qui va aujourd'hui nous parler de ce qu'il a pensé du documentaire. Alors, bonjour, docteur Ballon Perrin.
Bonjour.
Alors, assez incroyable ce documentaire Netflix. Qu'on s'intéresse au microbiote, ça fait des années dont on parle du microbiote, et là, enfin, j'ai envie de dire, ça devient quelque chose de mainstream, quelque chose où on met beaucoup de budget dedans.
Ah oui, ça, on peut le dire. Ah oui, mais non, c'est absolument magnifique. Hein. Donc, pour tous ceux qui nous regardent, je leur conseille vivement de regarder ce documentaire. C'est absolument merveilleux. La manière dont c'est réalisé de façon graphique, toutes les illustrations, ça nous permet ça permet à tous, on va dire, de comprendre beaucoup mieux ce qu'est le microbiote, comment on crée son microbiote, comment on influence son microbiote, comment ce microbiote peut être perturbé de cette manière-là, les différentes pathologies qui peuvent être associées, que ce soit, on en parle justement dans le reportage de l'obésité, on parle du côlon irritable, il y a aussi un passage très intéressant sur la maladie de Parkinson. Donc, on constate maintenant que le microbiote altéré peut être un des éléments qui intervient dans les maladies neurodégénératives, comme le Parkinson, mais aussi dans la maladie d'Alzheimer. Donc, tout ça est abordé et je conseillerais, en tout cas, même à ceux qui n'ont pas beaucoup de temps, de regarder les 30 premières minutes qui sont vraiment extrêmement bien faites.
Oui, parce que c'est assez... dingue, j'ai envie de dire, qui est un épisode qui s'appelle Les secrets du ventre, et la moitié de l'épisode, en tout cas un des plus gros intervenants, est en fait un neuroscientifique. Donc on a à la fois du coup Julia Enders, qui est une gastro-entérologue assez connue parce qu'elle a sorti son livre Les charmes discrets de l'intestin.
Absolument, qui est un best-seller incroyable et qui est un très bon livre qui permet vraiment aussi déjà de mieux comprendre pour tout un chacun ce qui se passe dans le ventre. Et elle est d'ailleurs remarquable dans ses interventions, elle fait ça très très bien. Et puis de fait, il y a ce scientifique John Cryan, qui est plus spécialisé dans tout ce qui est neurosciences et qui nous parle effectivement de quelque chose. C'est pour ça que je pense qu'ils en parlent beaucoup dans le reportage, parce que c'est évidemment quelque chose qui nous impressionne et qui nous interpelle très fort, l'impact, ce fameux gut-brain axis, donc l'impact du microbiote sur le cerveau, tout comme il existe, cet axe est bidirectionnel, donc il existe un impact du cerveau sur l'intestin.
Oui, et plus on avance dans la charge du microbiote, plus ce sujet-là, j'ai l'impression, apparaît, et des nouvelles découvertes apparaissent aussi dans ce domaine-là.
Mais tout à fait, hein. Ça a commencé, je dirais que c'est au mieux des années 2000, vers les années 2006, etc. Il y a eu ces fameuses études qui ont montré que si on transférait le microbiote d'une souris qui n'était pas du tout anxieuse à une souris anxieuse, à une souris qui n'avait pas de microbiote, un bébé souris né par césarienne sans microbiote, et qu'on lui transférait le microbiote d'une souris anxieuse, eh bien, elle devenait anxieuse elle-même. Et inversement, si on transférait le microbiote d'une souris relax, la souris qui recevait ce microbiote était relax. Et donc, ça, c'était un peu le début de l'aventure. Et maintenant, on comprend beaucoup mieux les différents mécanismes de liaison entre l'état du microbiote et l'anxiété, le stress, la dépression, même si il y a encore énormément de choses à comprendre. Il faut bien savoir ça aussi. Et alors, un autre élément dont ils parlent pas mal dans le reportage, c'est tout l'impact du microbiote sur le comportement alimentaire. Alors, il faut savoir que ça, c'est quelque chose qui est en plein développement. Il y a, en faisant partie moi-même de l'association belge de recherche sur l'obésité, eh bien, il y a le professeur Cani, qui est un grand spécialiste du microbiote. C'est lui qui a découvert le rôle d'une bactérie qui s'appelle la Kermansia, pour ne pas la citer, dans le diabète et l'obésité, eh bien, il a par après continué à travailler sur d'autres bactéries qui sont impliquées dans l'obésité et entre autres dans le comportement alimentaire, certaines bactéries qui sont impliquées dans les circuits de récompense psychologique. Et là, évidemment, la question aussi qu'on peut un peu se poser, et ça, je trouve que ce n'était pas très clair dans le reportage, c'est que je pense que bien souvent, ces perturbations du microbiote sont dans ce cas-ci plutôt la conséquence d'un comportement alimentaire. C'est qu'un comportement alimentaire X va induire un certain type de microbiote avec des bactéries qui vont effectivement jouer ce rôle dans le système de récompense. Donc là, on est plutôt dans ce sens-là, quoi.
Et ce qui est assez extraordinaire dans ce documentaire, en fait, c'est la façon dont ils illustrent tout le truc. Oui. Chaque chose, chaque élément, chaque pièce d'information qu'ils viennent apporter est illustrée de manière assez magnifique. Tu parlais des souris, des études sur les souris. Les souris sont présentes un petit peu partout dans le documentaire pour illustrer en fait toutes les études qui ont été faites sur le microbiote, qui sont généralement d'abord faites sur les souris. Et justement, Julia Enders a participé aussi, j'ai l'impression, dans pas mal d'expositions sur l'intestin. Donc, essayer de comprendre tout le tract de la bouche jusqu'au butthole, comme elle dit.
Oui, mais c'est quelqu'un qui médiatise bien le sujet, hein. D'ailleurs, la preuve, son livre, et elle le fait aussi très bien de façon visuelle. Donc, ça, c'est certain.
Qu'est-ce que tu as le plus aimé dans ce...
Ce que j'ai le plus aimé, c'est le début, comme je disais. Donc, au début, on vous explique très bien ce qu'est le microbiote, comment se constitue ce microbiote. Ça, je trouve, c'est très très bien fait, avec tout ce qu'on va rencontrer depuis l'accouchement et surtout dans les premières années de la vie, vont vraiment façonner notre microbiote. Et par après, il va continuer à se façonner à l'âge adulte, mais on sait que les premières expériences de vie vont jouer un rôle très important dans ces structures du microbiote qui restent d'ailleurs assez stables. On en reparlera par après. Et alors, j'ai beaucoup aimé aussi. Tu parlais des souris là, avec l'histoire de l'illustration par les souris est très très bien faite. Et alors, j'ai aussi bien aimé l'illustration avec. La façon dont les bactéries vont construire notre immunité. Hein, c'est une bactérie qui balance des pierres à un individu qui représente l'immunité, et puis finalement, il arrive à les bloquer, et c'est lui-même qui lui balance quelque chose sur la tête, et il tue l'intrus. Donc c'est très bien fait.
Et toute cette partie sur l'inflammation, où en un coup, il y a tout qui prend feu, il y a une guerre.
Des volcans. Mais justement, oui, ça fait un petit peu partie des choses qui n'ont, à mon sens, pas été bien expliquées aussi. C'est à un moment donné, ça, ce sont les petits bémols, si je peux dire. Les petits bémols, mais je pense que c'est important d'en parler, parce que sinon, les gens pourraient prendre des informations qui ne sont pas tout à fait exactes. À un moment donné, il est dit, voilà, quand le microbiote est altéré, eh bien, il va suffire de remanger progressivement plus de légumes, mais allez-y doucement, parce que si vous les réintégrez trop vite, ça va être compliqué. Alors, c'est vrai qu'il faut réintégrer les choses doucement, mais c'est plus compliqué que ça. En fait, vous pouvez très bien avoir un microbiote altéré avec un microbiote où il y a une prolifération excessive de bactéries de fermentation. Et ces bactéries de fermentation, dès que vous mangez des aliments fermentants, donc ce qu'on appelle d'ailleurs, c'est très connu maintenant, les régimes FODMAP, hein, donc tous des aliments fermentants, eh bien, vous n'allez pas du tout bien le supporter. Et il ne suffit pas d'en manger petit à petit plus pour que ça se règle. Il faut vraiment régler le problème. Et ce problème peut être réglé avec des traitements en phytothérapie comme la berbérine ou les médecins en allopathie utilisent des nouvelles générations d'antibiotiques non absorbables et qui ne détruisent pas le microbiote. Donc, ça se traite. De la même manière, des gens qui, comme tu disais, ont un volcan comme ça dans l'intestin parce qu'ils n'ont plus assez de bactéries de protection, donc ils permettent de créer une couche de mucus qui protège leurs parois des agresseurs. Ils n'ont plus non plus les bactéries qui donnent un message à leur système immunitaire en disant « Écoutez, tout va bien, calmons-nous ». On n'est pas agressé. Mais par contre, ils sont des bactéries qui ont accès à la muqueuse intestinale et qui envoient ce message pour créer l'inflammation. Eh bien, il ne suffit pas de manger un petit peu des choux et des brocolis pour que ça se règle, évidemment. Il va falloir, dans ce cas-là, évaluer, bien entendu, ce microbiote et puis donner différents types de traitements, soit pour diminuer ce type de bactéries-là, pour désenflammer un peu la muqueuse, pour petit à petit pouvoir enfin réintroduire des aliments qui posent problème.
Oui, c'est vrai que justement ces bactéries qu'on peut appeler néfastes étaient peut-être un peu moins bien représentées.
Oui, bah, elles étaient effrayantes. Hein. Donc, non, représentées, elles l'étaient bien.
Expliquées
mais,
peut-être.
Voilà, mais par contre, ce qui n'était pas expliqué, mais bon, c'est un peu normal, on ne peut pas tout expliquer, mais ce qui n'était pas expliqué et qui était un petit peu balayé, je trouve, rapidement, et pourtant c'est très important, c'est que si on est confronté à, et c'est terriblement important, les gens qui souffrent de côlon irritable, qu'on appelle ça, c'est extrêmement fréquent. Si on est confronté à ce problème-là, eh bien, il faut identifier est-ce qu'on a un côlon irritable de type avec une hyperfermentation ou alors un côlon irritable plutôt inflammatoire et le prendre en charge. Il ne suffit pas d'augmenter ses légumes, quoi. C'est plus compliqué.
Tout le documentaire se déroule aux États-Unis.
Mm-hmm.
Notamment avec des statistiques très alarmantes sur l'état de santé des Américains. Il disait qu'il y a 42% de la population en obésité, 11% atteint du diabète, 47% atteint d'hypertension et 11% ayant des allergies alimentaires, qui sont du coup des troubles qu'ils expliquent liés ou pouvant être liés à une perturbation du microbiote ou un appauvrissement. Est-ce que cette situation est comparable ici en Belgique ?
Alors, elle est moins effrayante, mais elle n'est néanmoins pas extraordinaire. Le processus de la mondialisation alimentaire, que des pays qui étaient très épargnés par ça jusqu'à il y a peu, comme le Japon, par exemple, est en train de suivre la même voie aussi, mais en ayant démarré en retard. Les États-Unis ont démarré bien en avance, comme les Mexicains, d'ailleurs, qui sont les deux leaders dans ce domaine-là. Et entre parenthèses, depuis le Covid, d'ailleurs, il y a une loi qui est passée, je ne sais pas si vous savez, au Mexique. En fait, au Mexique, le boire du coca coûte moins cher que boire de l'eau. Et depuis l'épidémie de Covid et les catastrophes liées, parce qu'on sait que plus il y a eu un lien avec l'obésité évident, hein, dans la mortalité liée au Covid, eh bien, vu cette catastrophe en question, les autorités mexicaines ont pris une décision très forte, c'est de changer les choses. Et maintenant, l'eau est moins cher que le coca. Gros changement, c'est une bonne nouvelle. Mais voilà, donc effectivement, ce phénomène-là est en progression, bien sûr, partout, les États-Unis étant leader là-dedans.
C'est vrai que dans le documentaire, un des quatre, donc il présente quatre personnages qui ont chacun des troubles, on va dire, dont un qui est japonais, et il parlait voilà, aussi de la problématique de pendant pas mal d'années. Bon, en plus d'avoir mangé des hot dogs en compétition, il s'était aussi écarté de son alimentation traditionnelle, on va dire. Et puis, il disait qu'en fait, son microbiote, finalement, n'était pas si mauvais parce qu'il était revenu à une alimentation plutôt japonaise. Mais bon, lui, il avait un gros problème, c'est qu'il faisait des compétitions de mangeur de rapidité de hot dogs. Je crois qu'il avait mangé 10 000 hot dogs sur sa carrière.
Alors, c'est un cas extrêmement intéressant. Parce que, justement, ça me permet de relever un autre petit bémol. Ça, ce n'est pas un petit bémol, c'est un gros bémol. C'est vraiment, pour moi, il y a une erreur dans le documentaire, c'est celle-là, qui est très importante. C'est à un moment donné, il y a une dame qui dit que, finalement, le microbiote, il change en 24 heures. Alors, c'est complètement faux. Sinon, d'ailleurs, ça ne vaudrait pas la peine de faire des analyses de microbiote. Dans le microbiote, il y a ce qu'on appelle une flore résidente et une flore fluctuante. Alors, la flore fluctuante, elle, qui est une petite partie de la flore, cette flore fluctuante, elle, effectivement, est un petit peu modifiée d'un jour à l'autre. Mais quand on fait une analyse de microbiote, on sait que c'est extrêmement résilient, comme on dit en termes, c'est-à-dire que c'est extrêmement stable. Et il y a d'ailleurs une publication qui est sortie dans Cell, qui est une des plus grandes revues scientifiques au monde, en avril 2024, donc c'est pour le moins récent, et qui est sortie et qui montre à quel point ce microbiote intestinal est terriblement stable. Et des gens qui ont justement un microbiote perturbé, comme on retrouve dans le diabète, l'obésité, ce qu'on appelle le syndrome métabolique, enfin dans ce type de problème-là, ce microbiote, si on ne fait rien, il va rester le même d'un jour à l'autre. À l'inverse, des gens qui ont un microbiote qui est assez bien équilibré, comme le patient, celui dont tu parles, qui est japonais là, à la base, eh bien, ce microbiote, il va rester dans l'ensemble assez bon. Alors, c'est là où je dis que c'est intéressant aussi, c'est pour ça que je voulais corriger ça, parce que c'est quand même quelque chose à repréciser. Et en fait, c'est tout à fait intéressant avec ce japonais en question, c'est que malgré ses concours de doc incroyables, eh bien, il a un microbiote qui est pas mal. Et donc, alors, ça ne veut pas dire faites n'importe quoi, de toute façon, votre microbiote, il est déterminé à l'avance. Ça, c'est faux. C'est tout à fait faux. Mais d'un autre côté, ça montre quand même qu'il y a vraiment l'installation du microbiote dans les premières années de la vie. Eh bien, il va avoir tendance à revenir à ça à partir du moment où vous ne faites pas n'importe quoi. Parce qu'il fait des concours de hot dog, mais en dehors des concours de hot dog, il mange correctement. Hein. Il ne fait pas de concours de hot dog non plus tous les jours de la semaine. Donc ça montrait bien, ça illustrait bien ce point-là.
Et oui, parce qu'en fait, donc la première partie du documentaire parle vraiment de ce que c'est que le microbiote, à quoi ressemble l'intestin, comment est constitué un microbiote, comment on peut déséquilibrer un microbiote. Donc on parle vraiment les 30 premières minutes que tu disais qui étaient vraiment, vraiment magnifiques à regarder. Et puis après, on passe sur la deuxième partie qui est là, en gros, l'analyse du microbiote. Comment est-ce qu'on peut... donc ces quatre protagonistes qui ont des problématiques assez extrêmes.
Assez extrêmes,
oui. Et on vient regarder leur microbiote. Et puis aussi, il y a plutôt des analyses de neuroimagerie pour voir comment se passent les circuits neuronaux quand on leur montre certaines images de nourriture. Mais donc, on vient un petit peu essayer de voir, illustrer au travers de quatre personnages comment est-ce qu'on peut agir sur leurs problématiques en faisant une analyse du microbiote. Et donc ça, c'est vraiment la deuxième partie du documentaire. Ma première question, c'est peut-être, est-ce qu'il y a besoin d'être dans une problématique aussi extrême que ces personnes-là que pour faire une analyse de son microbiote ?
Non, pas du tout. Mais là, ils ont évidemment choisi pour des raisons évidentes des situations extrêmes. Hein. Donc, c'est toujours plus parlant avec une situation extrême. Il est évident que non. C'est un patient qui va avoir des problèmes de surpoids, qui est en train de démarrer un prédiabète, par exemple, c'est qui est terriblement fréquent. Des personnes qui, effectivement, souffrent d'allergies dans certaines maladies auto-immunitaires, dans le côlon irritable, hein, qui était absolument une indication fondamentale, où je suis justement très, très, très content de voir que les gastro-entérologues, d'ailleurs eux-mêmes, maintenant, en parlent énormément du rôle du microbiote là-dedans. Ils prennent vraiment ça au sérieux de plus en plus. Donc, ce n'est pas nécessaire d'être dans des situations aussi extrêmes. Mais d'ailleurs, même, on se rend compte qu'il est tout à fait intéressant, par exemple, d'évaluer le microbiote dans la prévention de certaines choses. Même si on ne souffre pas de certaines choses, même dans la prévention, par exemple, on sait qu'il existe ce qu'on appelle des signatures du microbiote, donc des types de perturbations du microbiote assez, justement, représentatives d'un microbiote qui va pouvoir donner naissance à un cancer du côlon. C'est quelque chose qui est connu maintenant, et donc c'est quelque chose qui, évidemment, est très intéressant à faire en préventif avant même la colonoscopie.
Oui, et ici, justement, ça a l'air très facile de faire analyser son microbiote aux États-Unis. Donc, tout le documentaire se passe vraiment aux États-Unis. On dirait que les Américains sont vraiment des experts du microbiote en avant-garde. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Quels sont les pays leaders dans le domaine ?
Alors, en fait, pas du tout. Donc, en réalité, les Américains ne sont pas du tout à l'avant-garde du microbiote. En fait, au tout début, quand on prend au début des années 2000, il y avait un grand protagoniste qui était un Français, qui s'appelle Monsieur Doré. Et en fait, c'est lui qui était initiateur de ce qui était appelé Meta-HIT, qui était vraiment le début des recueils de microbiote et de la compréhension du microbiote. Et puis maintenant, en France, il y a aussi un professeur gastro-entérologue, qui est le professeur Sokol, qui donne cours à la faculté de médecine à Paris, qui est très spécialisé dans tout ce qui est microbiote, côlon irritable et maladies inflammatoires. En Belgique, on a celui qui a justement découvert le rôle de la bactérie Akkermansia dans l'obésité, le diabète. Et bien, c'est un, Et c'est un Belge qui est à... Enfin, il est italien à la base, mais bref, qui travaille à l'université de Louvain, etc. quoi. Donc, je veux dire que ça, c'est déjà une première chose. Et puis, alors, surtout, quand vous suivez, comme c'est mon cas, des publications scientifiques et vous êtes au courant de tout ce qui sort au niveau scientifique sur le microbiote, et c'est énorme, parce qu'il y a le nombre de publications scientifiques sur le microbiote, c'est absolument phénoménal, eh bien, vous avez... plus de 9 chances sur 10 de tomber sur une publication faite soit par les Chinois, soit par les Italiens, qui sont vraiment les deux grands leaders actuels dans la publication. Donc, voilà, on ne trouve pas trop de traces des Américains dans tout ça. Alors, ce n'est pas pour ça qu'il n'y en a pas qui sont dedans, bien entendu, mais c'est absolument pas, ils ne sont pas, absolument pas leaders dans le domaine.
Ouais. En tout cas, commercialement, ils savent le faire. C'est-à-dire qu'ils l'ont rendu accessible au public.
Ah, ça, commercialement, ils sont très forts pour beaucoup de choses. Hein. Donc, ils l'ont rendu accessible au public. Et puis, beaucoup de choses se font un peu à la Far West, là-bas, hein, aux États-Unis. C'est-à-dire que, on le voit d'ailleurs dans l'émission, des gens qui font eux-mêmes une transplantation du microbiote fécal. En Europe, c'est totalement interdit. Donc, c'est un peu effrayant. Donc, en Europe, en réalité, la transplantation du microbiote fécal ne peut se faire que dans une colite à Clostridium difficile, comme on dit. Donc, c'est une maladie très grave, une inflammation très grave du côlon. Et ça se fait dans pas mal d'hôpitaux, en Belgique aussi, et un peu partout en Europe. Ça, c'est une indication qui est tout à fait acceptée parce que, voilà, parce que sinon, les gens risquent d'en mourir. Enfin, je veux dire, c'est le risque d'avoir un microbiote transplanté qui n'est pas tout à fait impeccable, ce n'est pas grave par rapport au risque de la maladie. Par contre, aux États-Unis, vous pouvez vous transplanter votre microbiote, aller chercher des kits, et c'est ce qu'on voit dans l'émission.
La fille le faisait elle-même, et elle expliquait qu'elle avait commencé à ressentir des symptômes de dépression énormes parce qu'elle avait pris le microbiote de son, je crois que c'était son copain, frère, son frère et puis son copain. Elle a changé 3 fois d'honneur.
C'est ça.
Oui, et qu'en fait, en un coup, elle était beaucoup plus sujet à faire une dépression avec un tel type de microbiote, donc ils mettent quand même en garde des dangers.
Ah non, mais c'est très bien fait dans le document. C'est très bien fait parce que ils montrent justement cette façon sauvage de faire la transplantation du microbiote là-bas dans sa cuisine, oui. Et ils montrent aussi, ils expliquent bien le danger parce que effectivement le donneur peut véhiculer un certain nombre de problématiques dans son microbiote. Et c'est pour ça qu'on est en train, pour l'instant, d'essayer de surveiller les donneurs depuis pendant des décennies avant de finalement utiliser un jour leur microbiote à grande échelle dans des transplantations de microbiote fécal. Ça, c'est pour un futur semi-proche. Ouais.
Et nous, chez Simp, on propose de faire son analyse de microbiote depuis chez soi. Quel est un peu l'état ici en Europe, autre que Simp, au niveau de l'analyse du microbiote?
Ben justement, hein, en fait, on est très bien paré ici. Donc, le laboratoire justement que Simp utilise est un des leaders en biologie fonctionnelle en Europe et utilise toute une technique, que ce soit ce qu'on appelle le pré-analytique, donc la qualité avec laquelle l'échantillon est recueilli chez le patient et est amené jusqu'au labo, c'est très important. Donc ça, c'est une procédure. Il y a un stabilisateur de l'ADN qui est dans le tube, ce qui est fondamental, parce qu'ils ont fait des études où ils ont comparé quelqu'un qui récoltait sa selle dans un tube avec rien comme liquide et quelqu'un qui récoltait sa selle, qui la surgelait directement, et puis on faisait l'analyse à partir d'une selle qui était surgelée. On a bloqué toutes les multiplications qui permettraient de fausser ce qui se passe vraiment dans l'intestin. Et en fait, on a vu que quand il n'y avait pas ce stabilisateur, eh ben, il y avait une différence entre la selle congelée, analysée un peu plus tard, et la selle sans stabilisateur. Par contre, avec le stabilisateur, les résultats sont exactement les mêmes qu'avec la selle congelée. Donc, c'est hyper important. Et ça, c'est tout à fait respecté. Alors, la qualité de l'analyse est tout à fait impeccable. C'est une profondeur de séquençage, comme on appelle ça techniquement, qui est très, très bonne. Donc, ça, c'est très bien. Et puis alors, ce qui est très intéressant, et ça, c'est ce qui est appliqué, en l'occurrence, par exemple, par Simp, c'est tout ce qu'on fait avec les résultats.
Oui, parce que l'interprétation, c'est bien.
Voilà, parce qu'il y a différents, bien entendu, il y a d'autres labos hein, qui proposent des analyses de microbiote. Ce qui est fondamental, c'est de ne pas vous retrouver avec vos résultats. Et puis après, on fait quoi il faut avoir quand même une direction et se dire, voilà, ben, ce type de perturbation peut faire penser à cela et cela, et nous vous conseillons plutôt de changer ceci ou cela au niveau alimentaire.
Et c'est ce qu'ils disent un petit peu dans le documentaire, c'est qu'ils disent qu'avec une analyse du microbiote, chacun devient un petit peu son propre pharmacien. Parce que là, du coup, on est hors médicaments, on est vraiment sur son pharmacien, mais dans sa cuisine. Donc, c'est-à-dire choisir les bons légumes qui vont correspondre à mon alimentation et faire un petit peu ces dosages avec les résultats qu'on a pour au final... Comme il disait, eux, ils mettent beaucoup l'impact sur le style de vie. Et donc, en fait, de se créer, donc être le pharmacien de son style de vie, si on peut résumer, de vraiment se créer un style de vie qui correspond à son propre microbiote.
Absolument. Donc, ils insistent énormément là-dessus. C'est tout à fait exact. Hein. C'est certain que ça commence par un style de vie. Alors, on pourrait me dire, oui, mais ça, un style de vie, ça, j'ai pas besoin de faire mon microbiote. Je sais bien qu'il faut faire du sport, qu'il faut dormir, qu'il faut manger des légumes. Alors, absolument. Absolument, mais c'est plus compliqué que ça. Et c'est là où se trouve l'intérêt, c'est que l'analyse du microbiote permet de dire, bah, écoutez, finalement, votre microbiote est assez en équilibre. Le problème, soit il n'y a pas de problème, soit si vous avez un problème, il n'est pas là. En tout cas, il n'a pas l'air d'être là. Et à l'inverse, ça permet de voir, comme j'expliquais tout à l'heure, des gens qui ont un microbiote d'hyperfermentation, des gens qui ont un microbiote inflammatoire, des gens qui ont un manque de protection, etc. Et ça va découler sur des conseils à la fois alimentaires, en disant « mangez plutôt ceci, pas cela ». Alors, il pousse un peu le bouchon dans le documentaire en disant presque « moi, je vais manger plutôt des carottes que des concombres ». Bon, ce n'est pas à ce point-là quand même. Hein. Donc, on a des groupes, des familles d'aliments qui veulent être conseillés. Et c'est pas aliment par aliment. Au gramme par gramme, ils en remettent un peu. Quoi. C'est comme les écrans avec la guerre des étoiles. Ça, c'est un peu à l'américaine aussi. Même si c'est effectivement basé sur... C'est une représentation de données. Hein, mais c'est pas fake. Mais bon, c'est un peu pour faire du show. Et donc... Oui, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'il est donc important, avec l'intérêt, c'est ça, c'est de se dire, ok, moi je dois plutôt manger ceci ou cela, pareil avec l'obésité. D'ailleurs, je donnais une conférence pas plus tard que hier à Casablanca sur le sujet, il y avait un énorme congrès international sur le syndrome métabolique, et moi j'intervenais justement sur l'intérêt du microbiote par rapport à tout ça. Et donc, c'est extrêmement intéressant, et ils en parlent un peu dans le reportage en disant, ben voilà, peut-être que vous prenez du poids parce que votre microbiote n'est pas bien en équilibre. Et justement, on a identifié deux types, vraiment deux grands types de microbiote qui peuvent favoriser la prise de poids. Soit un microbiote où vous allez avoir trop de certaines bactéries qui vont extraire un excès d'énergie à partir des fibres, des aliments, des amidons, etc. Soit à l'inverse, auquel cas il va falloir faire un régime où on va plutôt réduire au maximum les carbohydrates. Et puis, à l'inverse, vous avez des microbiotes où vous avez un excès de bactéries justement nourries par les protéines, une insuffisance de bactéries nourries par les fibres et les légumes, et ça crée une inflammation qui crée par tout un mécanisme dont je passe les détails, qui crée de la résistance à l'insuline et de la prise de poids. Et donc, dans ce cas-là, c'est complètement différent. Il ne faudra pas du tout faire un régime protéiné. Il faudra faire un régime, par contre, avec moins de protéines, plus végétarien. Voilà. De même qu'il y a d'autres cas de figure. Certaines bactéries, quand elles sont diminuées, comme la Kermansia dont je parlais tout à l'heure, eh bien, là, il va vous être conseillé de faire plutôt des cures de jeûne intermittent, de manger plus de poissons gras. Enfin, ça, c'est plus spécifique à ça. Et donc, on peut... Voilà.
Donc, même dans la perte de poids, c'est d'ailleurs une des intervenantes était, comme il disait, en situation d'obésité morbide.
Absolument, ouais.
Et elle ne parvenait pas à perdre du poids. Bon, je pense que le problème, il était déjà du fait qu'elle n'avait jamais cuisiné.
Voilà,
quand ses enfants ouvrent un épi de maïs, elles se disent « Ah, c'est de là que ça vient le maïs qu'on achète en sachet ». Bon, on se rend compte que le problème ne vient peut-être pas juste du microbiote. Bah,
c'est ça. Hein,
mais ouais. Je trouve que ça souligne un point intéressant du fait de faire une analyse de son microbiote, mais du reportage en tant que tel aussi, c'est toute l'éducation et la sensibilisation autour de la nourriture. Moi, je me suis surpris dans ma cuisine à compter le nombre de légumes que je mangeais par semaine après avoir regardé le reportage. Je pense que toute cette introspection dans son microbiote, essayer de comprendre son microbiote et de se renseigner, ça aide aussi à mettre le doigt sur nos actions quotidiennes et à changer notre style de vie.
Bien sûr, c'est une démarche. Hein. C'est comme, vous savez, moi, je me suis occupé beaucoup de sportifs professionnels en toute une époque. Et au début, je leur donnais des compléments alimentaires, etc., spécifiques du sportif. Bon. Et puis, une partie du temps, les compléments restaient dans leur valise, dans leur armoire, etc. Ils ne prenaient rien. Puis jusqu'au jour où j'ai dit, bon, écoutez, là, on va faire autrement. Donc, on fait un bilan biologique. On en discute ensemble. Je vous montre toutes les anomalies. Je vous dis pourquoi prendre ceci ou cela. Et puis, on recontrôle dans 2 mois. Et à partir de ce moment-là, hop, ils prenaient tous leurs pilules. Et ils étaient... Et vous voulez voir quel était le résultat de la prochaine prise de sang. Puisque là, on travaillait sur la performance. Vous avez bien compris que c'est important pour eux, pour ce qui est... Bon, chez les sportifs, c'est la performance, évidemment, qui les intéresse. Et donc, c'est la même histoire. C'est quand on explique quelque chose, on se dit, oula, ça, c'est mon corps, c'est mon microbiote, ce sont mes bactéries, si je puis dire. Et ça donne envie de changer les choses. À l'inverse, plutôt que d'entendre, de dire, tiens, c'est important de s'occuper de soi, c'est important de faire du sport, c'est important de ne pas trop manger sucré, c'est important de... Oui, OK, mais ça, c'est important pour le voisin, pas pour soi. Hein? C'est ça, l'histoire.
Pour résumer, je crois qu'on peut dire que c'est vraiment magnifique ce qu'ils ont fait.
Magnifique.
Ça vaut vraiment la peine
d'aller. Magnifique. Comme je dis, la première partie est absolument splendide. Pour le reste, il y a encore beaucoup de bons moments intéressants. Bon,
Après, c'est un peu plus de la télé. La première partie est presque documentaire, juste visuellement magnifique. Et puis la deuxième partie, c'est presque un peu série télé-réalité. J'irai pas jusque-là, mais c'est un peu scindé en 2 moments. Pour toute personne, enfin en fait pour tout le monde, je conseille à n'importe qui d'aller regarder ça. C'est
absolument.
C'est
la conclusion. Très bien fait. Ouais.
Et la deuxième conclusion, c'est que voilà, tout ça a été fait aux États-Unis, mais on est tout à fait aussi avancé sur le sujet en Europe et dans d'autres parties du monde.
Très certainement. Ça c'est clair.
Voilà, à part leur production de Netflix, on a peut-être rien à envier à ce niveau-là.
Non, exactement.
Parfait. Mais en tout cas, je vous remercie à tous de nous avoir écoutés. Je ne sais pas si tu as peut-être encore quelque chose à ajouter.
Non, pas du tout.
Le tour. Donc,
je pense qu'on a fait le tour. Hein.
Merci pour votre écoute. Allez voir le documentaire. Et n'hésitez pas à nous faire part de votre feedback sur le documentaire ou sur cet épisode. Et voilà, n'hésitez pas aussi à partager cet épisode, à liker, à vous abonner à la chaîne. Tout cela nous aide beaucoup dans ce projet de podcast qui prend du temps, mais qui est très chouette à faire.
Voilà.
Au revoir.
Au revoir à tous et à toutes.